Florian Michel. Florian Michel, vous êtes maître de conférence à Paris 1 en histoire contemporaine avec comme sujet de recherche privilégié l'histoire de la diplomatie des relations internationales ainsi que l'histoire intellectuelle et culturelle et l'histoire du catholicisme. Vous avez notamment travaillé sur Étienne Gilson et par ailleurs vous êtes vice-président du cercle d'études Jacques et Raïssa Maritain et donc vous allez nous parler ce soir de ces deux figures de convertis au XXe siècle. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt.
Merci beaucoup Faustine pour votre invitation, merci à tous de me recevoir ce soir. Je suis très ému en fait pour plein de raisons, d'abord parce que j'ai l'impression de perdre 20 ans grâce à vous, ensuite vous m'avez invité dans des lieux que je connais bien, je dois dire, j'ai habité pendant 2 ans à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, j'étais proche des milieux de Tala il y a 15 ans, 20 ans de cela, et je dois dire que j'avais fait quelques photocopies pensant qu'on serait une vingtaine. On est peut-être 2 fois ou 3 fois le nombre, je ne sais pas. Et combien? Et voilà, je me suis fait prendre au jeu de la mémoire. En fait, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Pour cette invitation, permettez-moi d'ajouter que la journée a été très longue. J'ai commencé à 7h30 ce matin à Radio Notre-Dame pour Gilson, justement. Donc ma vie de recherche est complète aujourd'hui entre Gilson et Maritain ce soir. J'en parlais également un petit peu pendant le dîner. J'ai rencontré, si je puis dire, les Maritains quand j'avais 19 ans, de manière assez providentielle, dans la mesure où, étudiant de Cagnes, nous avions à préparer un sujet de philosophie sur l'État, si ma mémoire est bonne, et on nous avait demandé de lire à Toulouse L'homme et l'État de Jacques Maritain, un volume de philosophie politique, comme le titre l'indique, qui est publié en 1951, qui est le fruit de conférences à Chicago en 1949, et le volume était introuvable en librairie et dans une des librairies Gibert de la ville de Toulouse. Je suis tombé sur un petit volume intitulé « Le petit traité de l'homme, de l'être et de l'existant », pardon, « Le petit traité de l'être et de l'existant » que Maritain rédige en 1947 quand il est ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Il y a des pages de feu sur la liberté de l'homme, sur les desseins du Créateur par rapport à l'être créé, etc. etc. Des pages absolument magnifiques de réflexion sur le mal également. Et j'ai lu ça donc, quand j'avais un peu avant votre âge, puisque c'était pour préparer les concours. Et ça fait 20 ans finalement que je baigne dans ce milieu maritain. Et 20 ans que j'ai la grande chance finalement d'être payé pour lire les auteurs que j'aime. Voilà, donc je trouve que je suis le type le plus privilégié sur cette planète et j'en suis vraiment heureux. Le thème de l'intervention de ce soir, c'est donc la question de la conversion chez les Maritains. Je ne vais pas vous parler de métaphysique, je ne vais pas vous parler de politique, je ne vais pas vous retracer tous les linéaments de la vie des Maritains. Il faudrait évidemment plusieurs colloques pour cela. Je voudrais vraiment me focaliser sur les enjeux spirituels et sur les enjeux de sainteté dans l'œuvre des Maritains. Cependant, j'ai juste brièvement, j'espère vous donner quelques éléments de contexte, et ensuite j'entrerai dans le vif de mon sujet. Quand on parle des Maritains aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je m'en aperçois souvent, parce que l'histoire est longue, parce que dans l'Église de France, les Maritains n'ont pas toujours été bien reçus, pour des raisons multiples. Les uns accusent Maritain d'avoir préparé le concile, ce qui est très très mauvais, d'autres d'avoir finalement été trop proche de l'action française dans les années 20, ce qui est également un crime sans nom. On leur reproche un ensemble de choses, parfois un peu fantaisistes, faut bien le dire, mais on n'est pas très nombreux finalement aujourd'hui à lire et à travailler Maritain. Il y a quand même des ouvrages qui sont publiés régulièrement. Je ne sais pas si vous avez vu en librairie, tout récemment, il y a la correspondance Maritain, Bernanos, Mauriac, Claudel, qui vient d'être édité, publié, enfin, ça date il y a une dizaine de jours. Et donc, il y a quand même des travaux qui sont publiés régulièrement. Mais c'est un tout petit flot par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Maritain. Alors, pour donner quelques éléments précis, d'abord, je dis les Maritains, parce qu'en fait, c'est un couple. Vous avez Jacques et Raïssa Maritain. Et quand on dit les Maritains, on inclut en fait également Vera, qui est la petite sœur de Raïssa, qui a vécu avec Jacques et Raïssa tout au long de leur existence. Jacques est né en 1882, Raïssa a quelques années de moins, 1883, 1884, enfin vous retrouverez les détails. Et Jacques meurt en 1973 à Toulouse. Il est alors chez les petits frères de Jésus, chez les frères de Charles de Foucault. Raïssa, elle, s'éteint à Paris en 1960. Et Vera, donc la petite sœur, décède à Princeton en 1959. Voilà un petit peu le cadrage géographique et le chronologique. Raïssa et Vera sont des immigrés de première génération, si je puis dire, qui arrivent de Russie. Elles ne parlent pas un mot la langue française quand elles arrivent en France. Elles ont entre 8 ans et 10 ans. Elles sont juives. Elles fuient les pogroms de Russie, enfin du nord de l'Ukraine. Et le père de Raïssa et de Vera est un juif pratiquant, petit artisan, pauvreté. Enfin, je ne vous fais pas le tableau, mais ce n'est pas une situation très, très facile. Le Raïssa est une élève brillante dans les écoles publiques françaises et c'est ainsi qu'elle va parvenir à s'intégrer dans le tissu de la société. Jacques, c'est un tout autre tableau, provient des milieux gouvernementaux. C'est un petit peu, et je force un peu là, le trait, c'est un petit peu comme si c'était le petit-fils de Lionel Jospin, si vous voulez, pour l'époque, quoi. Je plaisante un peu, mais son grand-père s'appelle Jules Favre. Le grand avocat des défenseurs, le grand avocat défenseur des ouvriers à Lyon, l'un des pères fondateurs de la Troisième République, cette fameuse République des Jules, donc les Jules Favre, les Jules Ferry, etc., etc., les Jules Grévy. Et Jules Favre, qui n'est pas chrétien, qui a même publié un petit volume qui s'appelle Anathème, un livre introuvable, mais tout à fait intéressant sur le plan, disons, de l'histoire familiale. Plusieurs mariages. La mère de Maritain s'appelle Geneviève Favre, fille donc de Jules Favre. Geneviève Favre, c'est simple, c'est une des premières femmes divorcées de Paul Maritain. Le père de Jacques Maritain s'appelle Paul Maritain, c'était le secrétaire de Jules Favre. Le mariage vire au cauchemar assez vite. Et deux enfants issus de ce mariage. Marqué par le protestantisme, mais un protestantisme un peu particulier, parce qu'en fait, c'est simplement la seconde épouse de Jules Favre qui est proche du protestantisme. Et en fait, Jacques est baptisé enfant dans le protestantisme par un pasteur qui passera ensuite à l'Église catholique. Enfin, honnêtement, je vous fais grâce de tous les détails, simplement pour vous dire, c'est un peu le bordel, si vous me passez l'expression sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Maritain, il est scolarisé dans différents lycées, dont Henri IV, pour représenter son bac. Il rencontre là Ernest Psicari. C'est un ensemble d'amitiés. Ernest Psicari était très amoureux de la sœur de Maritain. Là aussi, enfin, on est entre. C'est un milieu compliqué, en fait, y compris sur le plan affectif. Psicari, c'est un poème, si je puis dire. Qui poursuivra sa route vers l'armée française et trouvant la mort et d'une certaine manière la rédemption à travers l'armée française et la Première Guerre mondiale. Maritain, il est très proche de Peggy pendant cette période 1900-1914. Peggy va déjeuner quasiment toutes les semaines chez la mère de Maritain qui tient salon en fait dans le 6e arrondissement rue de Rennes. Et sur un plan, disons, strictement sociologique et culturel, il n'y avait à peu près rien qui prédestinait Jacques et Raïssa à se rencontrer. Ils se rencontrent en fait à l'université. Jacques, à ce moment-là, est très engagé du côté de l'équivalent de l'époque de l'UNEF, n'est-ce pas? Et je plaisante un peu en disant cela, mais il distribue des tracts pour défendre les étudiants martyrisés par le pouvoir en Ukraine. Donc c'est une militante politique. Et Raïssa est sondée par Jacques pour signer sa belle pétition. Et c'est ainsi que les deux se rencontrent. Ça match immédiatement. Et je vous fais grâce de toute la chronologie. Mais ce qui est important, c'est que au moment où ils se rencontrent, ils ont 20 ans, 21 ans, ils connaissent pas le Christ, ils connaissent pas l'Église. Non seulement ils connaissent pas, mais ils ont des a priori très hostiles en fait, hein, à travers le milieu du grand-père et de la mère de Jacques. Tout à l'heure, je disais qu'elle était divorcée. Elle est non seulement divorcée, mais militante féministe ardente. Peggy, à ce moment-là, c'est pas très très clair non plus sa position. Enfin, il est du côté du socialisme démocratique, mais plutôt anticlérical. Et il y a là quelque chose qui est, pour les jeunes Jacques et Raïssa, profondément insatisfaisant sur le plan personnel, sur le plan qu'on ne peut pas encore dire vraiment spirituel, mais ils sont en quête d'une autre vie, à tel point qu'ils se font le serment de se jeter. L'affaire est bien connue pour ceux qui ont lu les grandes amitiés de Raïssa. Ils promettent de se suicider si dans l'année qui vient, ils ne trouvent pas un sens à leur existence. Et quelques jours après avoir fait ce serment, donc ils font à ce moment-là, ils habitent rue des Feuillantines et ils font ce serment en contrebas du Jardin des Plantes. Et donc le projet, c'est de se jeter dans la Seine, du haut d'un pont, et comme ça, fin de l'histoire. Le Dieu étant bon, il va mettre sur leur route Léon Blois, et c'est l'année de la publication de La femme pauvre de Léon Blois. Les livres jouent un rôle tout à fait important pour ce petit monde proche de la Sorbonne, proche du Collège de France. Ils suivent les conférences j'ai un trou de mémoire, tout le monde le connaît, pas de Gilson justement, mais de Bergson, pardon, au Collège de France. Et la lecture de Léon Blois et de La femme pauvre va les lancer vers l'Église. Ils vont rencontrer Léon Blois. La femme pauvre, on connaît souvent, sans toujours l'attribuer à Léon Blois, la dernière formule, vous savez, il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de n'être pas des saints. Il y avait une autre formule également, que je voulais vous citer plus tard, mais on n'entre pas au paradis demain, ni dans 10 ans, on y entre aujourd'hui, quand on est pauvre et crucifié. Et à partir de là, donc on est là dans les années 1902-1903, se met en place un processus de conversion. Processus de conversion qui est à la fois très rapide, mais en même temps très violent, du point de vue du milieu familial. Concrètement, les maritains vont mettre pas loin de 7 à 8 mois pour avouer leur passage à l'église, à la mère de Jacques. Donc vous imaginez un peu l'ambiance familiale, et le jour où Jacques raconte à sa mère qu'il a demandé le baptême, c'est l'engueulade monumentale à la maison. À tel point que la mère explique à Jacques qu'il a démonté tous les espoirs familiaux, qu'il y a des lettres entre la mère de Jacques et Psychary, où Psychary, qui n'est pas encore converti à ce moment-là, explique au fond que vivement que Jacques se convertisse à l'islamisme, parce que ça lui conviendra mieux. Enfin, on est là, si vous voulez, sur un plan familial, sur un plan simplement humain, dans des drames absolus. Donc, je suis déjà très loin de mon topo, et ce que je voulais simplement... Donc voilà un petit peu le contexte, et pour donner quelques éléments de contexte, donc conversion, baptême en 1906, Jacques, à ce moment-là, il y a un moment de noviciat, je développerai davantage tout à l'heure, il y a un moment d'enseignement à l'Institut catholique de Paris de 1914 à 1939, pendant 25 ans, donc Jacques enseigne la philosophie moderne à l'Institut catholique de Paris. Et 1939-1960, il est sur les routes, en quelque sorte, pendant 20 ans. D'abord aux États-Unis pendant 5 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite à Rome pendant 3 ans, où il est ambassadeur de France. Ensuite, il retourne enseigner à Princeton pendant 12 ans. Et c'est pour ça que Vera, la petite sœur de Raïssa, est enterrée là-bas. Et après le décès de Jacques, retour en France. Et il souhaite entrer chez les petits frères de Jésus, qui en fait avait été fondé dans le contexte de sa maison de Meudon dans les années 1920-1930, autour du Père Voyaume. Il y avait dans ces milieux-là une grande dévotion au désert, au Père de Foucault, avec des pèlerinages réguliers vers la Tunisie, etc. Et il meurt en fait en 1973 à Toulouse, chez les petits frères juste à côté, des frères dominicains. Donc voilà pour le cursus terrestre. Ce que je voulais faire ce soir, c'est vous présenter en fait différents points de la vie des maritains, sous l'angle spirituel, pas sous l'angle philosophique, sous l'angle vraiment spirituel. Et dans un premier temps, toute la question de la vocation et du noviciat. Le deuxième point, la question de la sainteté et de la vie sacramentelle des maritains. Ensuite, je voulais présenter des éléments concernant l'éloge de la sainteté dans l'œuvre des maritains. Et je crois que c'est là quelque chose de tout à fait important. Et un quatrième point sur la réputation de sainteté, et je serai plus rapide sur les derniers points, réputation de sainteté, le terme était suffisamment clair pour être immédiatement intelligible. Ils sont entourés tout au long de leur existence par des amis, des clercs, des papes, qui rendent hommage à leur sainteté, puisqu'un saint n'est pas simplement quelqu'un de mort, mais aussi les saints sont des gens, n'est-ce pas ? Et donc, je voudrais présenter rapidement cela. Et on en parlait également pendant le dîner rapidement, les maritains sont entourés d'un certain nombre de conversions, et c'est là quelque chose de tout à fait important, au sens où le converti va devenir à son tour convertisseur. Et pour faire tomber tout de suite le suspense, avec un petit groupe de travail, on a essayé d'inventorier tous les filleuls des maritains, donc de Jacques, de Raissa et de Vera, et on arrive à environ 80 filleuls dont les maritains sont directement les parrains-marraines. Mais il faudra inclure à ce chiffre, en fait, un grand nombre d'individus, de personnes, d'amis, qui étaient déjà baptisés, donc dont les maritains ne sont pas les parrains, mais qui ont été remis en route en quelque sorte par la lecture d'un volume ou par avec des effets parfois insoupçonnés. On a des témoignages d'amis juifs des maritains qui sont passés à l'église, demeurent juifs, mais qui retrouvent un sens spirituel à leur judaïté d'une certaine manière. Donc c'est un ensemble d'éléments un peu complexes et je voudrais essayer de présenter rapidement cela. Autre chose, si vous avez des questions, je suis historien, je baigne dans mon sujet, vous l'avez compris, n'hésitez pas s'il y a un élément un peu curieux à m'interroger ou à m'interrompre. Donc, le premier point donc sur la vocation et le noviciat des maritains. Ce qui me paraît tout à fait important dans le premier temps de la vie des convertis des maritains, une fois qu'ils ont rencontré les Homblois, une fois qu'ils sont entrés dans l'Église, c'est un moment de grande incertitude finalement concernant leur mode de vie. Ils sont baptisés en 1906, ils sont déjà mariés depuis 1903, et d'une certaine manière, le baptême et la conversion viennent les saisir dans un état de vie. Et cet état de vie, ils ne savent pas très bien comment le réorganiser en fonction de leur nouvelle vocation. D'une certaine manière, Jacques est à ce moment-là un doctorant, une situation bien classique, n'est-ce pas ? Et il trouve un poste de lecteur à l'université d'Heidelberg, et toute la petite famille, tout le petit troupeau dans le vocabulaire des maritains, le part à Heidelberg, et pendant 3 ans, leur vie quotidienne va être réglée par la liturgie des heures, par une vie quotidienne qui est réglée en fait comme une vie monastique, comme une communauté monastique. Dans leur vie quotidienne, il y a beaucoup de vocabulaire russe qui affleure, et par exemple, ils mettent en place ce qu'ils appellent la pratique du knut, c'est-à-dire la pratique du capitaine, qui, à tour de rôle, va fixer les règles de vie pour Jacques, Raissa et Vera. Donc, je cite les carnets de maritains, « Nous appelons knut celui de nous trois qui, à tour de rôle, donnera des ordres aux deux autres. Il convient qu'on demande au knut la permission pour tout. » Ce moment en Allemagne est un moment de pauvreté, pauvreté choisie et pauvreté définie par les contrats doctoraux de l'époque, n'est-ce pas ? Et le fait est que cette pauvreté elle est redoublée par la question linguistique, puisqu'ils se retrouvent en Allemagne. Ils vont passer 3 ans, 2 ans et demi, en fait, à lire un certain nombre de vies de saints. Donc je lis Jacques, hein, on dévore les vies de saints. On lit alors le traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales, la vie spirituelle de sainte Cécile, l'année liturgique, le père Faber de l'oratoire, le père Surin, le père de Caussade, Denis de Chartreux, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, saint Ignace de Loyola, je cite, qui épouvante Vera par ce qu'il dit du péché véniel. En 1909, Raïssa se met à lire le commentaire du père Pegg de la Somme de théologie, donc de saint Thomas d'Aquin, et c'est Raïssa qui, la première, découvre saint Thomas, et c'est Raïssa qui présentera saint Thomas à Jacques, et qui en fera donc son objet d'étude pendant les 60 années qui suivent. Le petit troupeau lit également la vie de saint François Xavier, la vie de sainte Gertrude, la vie d'Angèle de Foligno, la vie de sainte Catherine de Gênes. À propos de sainte Gertrude, c'est là quelque chose qui revient très fréquemment dans les ouvrages et l'ecclésiologie, en quelque sorte, des maritains. Sainte Gertrude, s'en allait, raconte Jacques dans Antimoderne, l'un de ses volumes, là, partout à travers le village, à travers sa communauté, pour savoir ce qu'elle devait offrir au Seigneur. Et elle ne trouve rien qui puisse convenir au Seigneur. Et elle décide de, je cite, « recueillir toutes les souffrances et toutes les anxiétés, rassembler toutes les fatigues, toute la fausse science, pour les offrir, une fois purifiées, par l'invincible lumière de l'intelligence, en hommage à la sagesse éternelle. » Donc beaucoup de lectures dans cette année de noviciat. Ils sont alors très proches sur un plan spirituel, à la fois des bénédictins et à la fois des dominicains. Ils reçoivent, avant la Première Guerre mondiale, l'oblation à Saint-Benoît au mois de septembre 1912. Jacques reçoit le nom de Placide. Alors, Jacques est un colérique contenu, si je puis dire. Et le fait de recevoir le nom de Placide, il a toujours reçu un petit peu comme une ironie de la grâce, une plaisanterie des bénédictins, et ça l'a beaucoup fait réfléchir tout de même. Il y a un de ses amis qui le décrit comme un parterre de violettes sur un fleuve de pétrole. Et c'est là quelque chose d'assez juste. Raïssa reçoit le nom de Gertrude et Vera celui d'Agnès. Ils font, je ne développe pas trop ce point parce que c'est à la fois faute de temps et puis à la fois il faudrait être très, très scrupuleux, très méticuleux en traitant cette question-là. Les maritains font un vœu d'abstinence après 8 ans de mariage, et vœu d'abstinence qui est recueilli par leur père spirituel, qui est alors un dominicain qui les accompagne depuis une paire d'années. À propos de ce vœu, c'est là évidemment quelque chose de tout à fait crucial. En fait, vœu caché d'abord, on ne l'a su qu'après 1960, après le décès de Raïssa, quand Jacques a publié un certain nombre de carnets personnels de Raïssa. Donc on est là en octobre 1912 à la cathédrale de Versailles. J'ai jamais trop creusé pour être franc cette question du vœu d'abstinence des maritains, souvent relié à des pratiques russes après un certain temps de mariage, et vœu également en lien avec la vocation profonde des maritains sur lesquels ils s'interrogeaient. Et on trouve ainsi dans le carnet personnel de Jacques en 1909 cette formule. Il nous faut, je la cite, elle est très compliquée, peut-être, je vais peut-être la lire deux fois, mais il nous faut être, écrit Jacques en 1909, comme des religieux d'un certain ordre spécial, ayant dans leur règle de vivre dans le monde. Il faut tromper le monde, pour ainsi dire, en ayant l'air de mener la vie du monde. Combien difficile alors de n'être pas des moines sécularisés au lieu d'être des laïcs réguliers, plutôt donnés à Dieu. Pendant finalement toute leur existence, je la relis, donc il nous faut être comme des religieux d'un certain ordre spécial, ayant dans leur règle de vivre dans le monde. Il faut tromper le monde, pour ainsi dire, en ayant l'air de mener la vie du monde, en l'occurrence une vie de famille. Combien difficile alors de n'être pas des moines sécularisés au lieu d'être des laïcs réguliers, ou plutôt donnés à Dieu. Donc, c'est un choix de vie qui est très complexe, et on a vu dans les milieux maritains, notamment du côté de la maison des Clés de Brouwer, des personnes mariées, sans pour autant, au sens strict, divorcées, entrer chacun des membres du couple dans des abbayes bénédictines. C'est là des choses peu communes aussi sur le plan historique. C'était du reste extrêmement compliqué pour les personnes concernées, avec des enfants qui, eux aussi, vont d'une certaine manière entrer dans les ordres, mais à la suite des parents. On est là dans des configurations tout à fait exceptionnelles. Donc, les maritains, il s'agissait vraiment de mener aux yeux du monde une vie conjugale, une vie de famille. Ils avaient une maison à Meudon, ils recevaient du monde, ils organisaient un salon, il y avait des dizaines de personnes qui venaient tous les dimanches dans leur maison de Meudon, qui était un des hauts lieux de la vie intellectuelle et spirituelle. Donc un immense salon au rez-de-chaussée et un oratoire à l'étage. Puisque à partir de au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils reçoivent de l'évêque de Versailles l'autorisation d'avoir le Saint-Sacrement directement à la maison. Toute leur vie, on peut le dire, ils ont cherché un petit peu à la bonne formule pour mener ce que Raïssa appelle à la fois une vie d'oraison et une vie de contemplation sur les chemins. Dans la correspondance, on voit en permanence cette idée d'un ordre spécial. Alors parfois, il l'appelle l'ordre de la merci, au sens où il s'agirait de racheter tous les paumés du monde moderne, afin de les délivrer des vérités captives et de racheter ces rescapés. À plusieurs reprises également dans la correspondance, on trouve la notion d'ashram. C'est un peu vague. Le père Lamy à la Courneuve qui envisage de fonder également une communauté dans les bâtiments qui deviendront ceux de l'abbaye d'Ourscan. Il y a également, je le signalais tout à l'heure, la question de la communauté des petits frères de Jésus qui se mûrit finalement dans la chaleur du foyer de Meudon. Mais il y a d'autres initiatives sur le plan spirituel. Alors vous êtes trop jeune, moi à votre âge, je n'avais pas la moindre idée que cela existait, mais j'ai peut-être entendu parler, vous, des équipes Notre-Dame. Les équipes Notre-Dame, le père Caffarel est un tout proche, en fait, du foyer maritain. Et c'est alors un jeune séminariste, enfin un séminariste, puis un jeune prêtre. Et il y a des pages lumineuses des maritains sur le mariage, précisément parce que les deux, enfin et surtout Jacques, on a bien vu les dégâts du mariage bourgeois, vous regarderez dans Humanisme intégral, qu'il y a des pages absolument splendides sur la théologie chrétienne du mariage. Et je lisais encore la semaine dernière la correspondance de Maritain à Bernanos, et c'est Raïssa qui a invité Bernanos à écrire un roman sur le mariage pour mieux expliquer aux fidèles chrétiens la grandeur du sacrement. Voilà un petit peu donc à la fois la vocation et ce temps de noviciat. Du point de vue de deuxième point, sainteté et vie sacramentelle, on est là dans un milieu que je trouve extrêmement... le point va être assez simple, vous allez peut-être déçus pour les uns, heureux pour les autres, au sens où l'orthodoxie et l'orthopraxie, c'est-à-dire le désir d'être parfaitement conforme aux objets de foi de l'Église et la pratique sacramentelle, eh bien, se superposent, cherchent à se superposer complètement. Petite citation d'un magnifique volume de Raïssa qui s'intitule « De la vie d'oraison ». Raïssa dit « Pour avancer dans la vie spirituelle et se disposer à la grâce de la contemplation, il faut user des moyens que l'Église nous propose, la pratique assidue des sacrements, l'amour de la Sainte Eucharistie, la communion fréquente, la dévotion au Saint-Esprit, le recours filial et constant au divin cœur de Jésus et à la bienheureuse Vierge Marie, par qui nous vient toute grâce, la piété envers les saints et les anges, la pénitence spirituelle et corporelle, la sainte haine de soi-même, la prière persévérante sont nécessaires. Il est inutile, c'est la conclusion de la citation, il est inutile d'insister sur des vérités si évidentes. » Bon, c'est peut-être pas si inutile d'insister, mais en tout cas, quand on regarde un petit peu, donc c'est un petit peu le programme dessiné en 1922, tout au long de la vie des maritains, il faudrait reprendre chacun des points, chacun des sacrements, mais juste pour vous donner quelques éléments, donc ils sont baptisés au mois de juin 1906, ils sont confessés pour la première fois le mois suivant, donc le 11 juillet 1906. Pour Jacques, je le signalais précédemment, la situation est en fait un peu compliquée, parce qu'on ne sait pas quelle est la validité de son baptême. baptisé par un pasteur protestant, etc., etc. Et donc, il est confessé avant le baptême, avant, au cas où le baptême administré aurait été valide. La première communion, le 3 août 1906, Raïssa reçoit l'extrême onction en janvier 1907 parce qu'elle est affreusement malade et proche de la mort. Ils reçoivent le sacrement de confirmation à l'été 1907, donc un an plus tard, après un pèlerinage à Notre-Dame de la Salette. Et là, il aurait fallu que je présente davantage les relations entre Blois et Notre-Dame de la Salette, donc le sanctuaire marial qui est dans les Alpes, puisque les maritains sont très marqués par cette spiritualité de celle qui pleure sur les péchés du monde, sur les péchés du clergé, et il y a là quelque chose qui marque profondément les maritains. Ils sont, d'après le journal des maritains, consacrés à Dieu par le père Claire Isaac en 1910, donc leur aumônier, leur conseiller spirituel. La formule, il faut bien le dire, est assez ambiguë, puisque Raïssa commente « Le père Claire Isaac me dit qu'il nous a donné et consacré à Dieu comme saint Benoît et sainte Scolastique, que nous appartenons absolument à Dieu. » Ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est que les maritains sont parmi les premiers, vous voyez bien, baptême 1906, Saint Pie X, 1905, communion fréquente, et ils entrent dans l'Église précisément dans un moment où l'invitation est très forte pour communier de manière très régulière. Jacques sert la messe quasiment tous les jours pour le père Claire Isaac, et donc il communie tous les jours. En Allemagne, il communie tous les jours. Ils reçoivent, je l'ai signalé tout à l'heure, en 1923, l'autorisation de conserver le Saint-Sacrement dans leur maison de Meudon. Et commande Jacques, Jésus habitera désormais avec nous. La dévotion eucharistique est très forte chez les maritains. Et en fait, Jacques, on a ses carnets, ils ne sont pas tous publiés, ils sont en cours de publication, et il le met. Et du coup, on peut mesurer très, très précisément. Aujourd'hui, je suis allé à la messe à tel endroit, ou bien aujourd'hui, je n'ai pas pu aller à la messe parce que pour ceci, pour cela, mais on sent toujours que c'est une grande peine. De la même manière, il marque les dates de ses confessions. Et donc, alors, est-ce qu'il les marque tous les jours, j'en sais rien, mais enfin, à chaque fois qu'il se confesse, je ne sais pas, mais ça permet un petit peu d'avoir une mesure de sa pratique sacramentelle. Pour Aïssa, on le sait, confession hebdomadaire, le péché lui est, selon son terme, comme une arête au travers de la gorge. C'est Raïssa qui écrit « Il y a deux catégories d'hommes, ceux qui sont capables, par quel mystère, d'assimiler le péché, de vivre avec le péché, et ceux qui n'en sont pas capables, par quel mystère de prédestination, ceux qui sont incapables d'assimiler le péché parce que le moindre péché les libérer leur est comme une arête au travers de la gorge, ils n'ont de cesse qu'ils en soient délivrés par la contrition et par la confession. Ceux-là sont appelés à l'assimilation au Christ. » Enfin, là, c'est l'historien qui commente. Il y a évidemment quelque chose d'hyper scrupuleux, c'est le moins qu'on puisse dire, chez Raïssa Maritain. Pour Maritain, juste pour vous donner quelques exemples, le 1928, elle s'y ensuit ses carnets, 14 confessions sont indiquées dans son agenda. En 1929, 24, en 1930, 22, en 1931, 21, etc., etc. On peut mesurer tout cela. L'identité des confesseurs est également précisée. Il y a de très belles formules des maritains sur l'absolue gratuité de la miséricorde divine. Le pardon que Dieu nous accorde est un abandon véritable de lui-même, un don de lui à nous. Il faudrait que je développe, et je passe un peu, toute la question de la cèse, la question des moyens pauvres, la question également de la confession de foi à la fois auprès du cercle des amis, aussi du cercle des intimes, et également de manière plus large. Auprès du cercle des amis, il faut imaginer la rupture que ça signifie. Concrètement, du jour au lendemain, quand il annonce sa conversion à ses amis, Jacques, il les perd tous, quasiment. Il n'y en a qu'un qui va rester avec lui de ses années d'Henri IV. C'est un certain Jean Marx, un diplomate, qui finira, si je puis dire, à la fois au Quai d'Orsay, directeur des affaires culturelles et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Jean Marx et sa sœur sont les seuls amis du lycée des toutes premières années de Maritain. Tous les autres se détournant de lui. Enfin, pardon, Jean Marx et Ernest Psychary, mais qui décède en 1914. Sur le plan de la confession de foi, deux éléments. Il y a un très beau texte déjà qui s'appelle « Confession de foi », tout simplement en 1941, il le publie pendant la guerre. Et il y a également un texte majeur que vous connaissez peut-être parce qu'il a intégré le magistère de l'Église, c'est le grand document de Paul VI, la confession de Paul VI qui date de 1966, et dans le contexte conciliaire, le credo de Paul VI, voilà le terme qu'on emploie régulièrement. Et on a publié la correspondance entre Jacques Maritain et le cardinal Journet, on a retrouvé dans les archives des Maritains les brouillons du credo de Paul VI, et c'est un ami bénédictin de Solesmes qui a publié le brouillon du credo rédigé par Maritain et le texte final du credo de Paul VI. On est là dans des documents évidemment, enfin non seulement proches, mais Paul VI a intégré à 80% le texte de Maritain lui-même. Donc voilà un petit peu pour la question de la vie sacramentaire. Ce qui me paraît également très important, et je passerai peut-être plus rapidement sur ce point, c'est l'éloge de la sainteté dans les textes de Maritain. Ça fait partie des... Je vais passer de deux pages, 495 et 496. Je ne l'ai pas dit, hein, toutes ces pages ne sont pas de moi, mais l'an prochain, en début 2019, va être publié un immense volume sur les Maritains, les dossiers H aux éditions de Lausanne, dont j'ai oublié le nom présentement, et ce que je vous présente là de manière très, très schématique, c'est ma contribution à ce dossier H sur les Maritains. Et vous verrez, page 495-496, un ensemble de citations repérées dans les volumes des Maritains. Ce qui me paraît tout à fait important, c'est que pour Maritain, la sainteté est véritablement l'aiguille du nord de la boussole. Quoi. C'est vraiment le point de repère. Il le dit sur le plan philosophique de manière très simple. Il dit, mais finalement, la sagesse des saints, c'est une bonne... la sagesse des philosophes, c'est une bonne chose, mais elle n'a qu'une seule chose à faire, c'est s'écraser devant la sagesse des saints. Il le dit également à Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit. C'est très bien votre vue, écrit-il à Mounier, mais le fond de la question, c'est que votre entreprise doit exiger des âmes orientées vers la sainteté. Je dis la sainteté de l'intelligence comme la sainteté du cœur. L'objectif des Maritains, c'est vraiment, d'une certaine manière, de promouvoir, de populariser, vous allez voir par quel biais, la sainteté. On trouve des petits volumes pour enfants de Raïssa Maritain, notamment à Saint Thomas d'Aquin, expliqué aux enfants. J'ai jamais essayé avec les miens. Vous voyez un petit peu, ma foi est fragile. Mais ça commence ainsi, ce texte de Raïssa de 1934. « Tous les saints sont aimables à cause de leur sainteté même qui touche le cœur de Dieu et le nôtre. Mais chacun a sa beauté particulière, comme toutes les fleurs sont belles et chacune est belle à sa manière. » En 1946, Raïssa écrit « Il y a une sainteté pour chacun de nous, à la mesure de notre destinée, et que Dieu se propose d'obtenir par des voies qui ne sont cataloguées dans aucun manuel de perfection. » Également, dans les grandes amitiés, donc, qui est le grand témoignage spirituel publié non pas par Jacques, mais par Raïssa, on trouve cette belle formule « Un catéchisme dans sa sobriété ne nous aurait sans doute rien fait comprendre alors. Notre ignorance, donc elle parle du moment de la conversion, notre ignorance avait le plus grand besoin du secours des images, de cette sorte de portrait de l'Église tracé dans les quatre dimensions de la hauteur et de la longueur, de la largeur et de la profondeur. Et tout à la fois nous était montré le catholicisme héroïque, la sainteté dans ses épreuves terribles, dans son humilité et sa divine charité, dans son ascèse et dans la béatitude. » Où elle s'accomplit, dans la pure harmonie, dans sa puissance, dans sa beauté. Nous apprenions que la sainteté unit entre eux dans l'invisible tous les membres vivants de l'Église, et que cette communion des saints est le lien et la vie de son corps mystique, et lui donne sa note de sainteté, indépendante des perfections et des fautes de quelques-uns, ou du plus grand nombre, des membres de l'Église visible. La citation, c'est celle du haut, donc de la page 495 que vous avez. Quand on regarde, je ne vais pas relire toutes les citations donc, que vous pourrez tranquillement relire plus tard, mais c'est un combat spirituel. Il s'agit vraiment d'arracher à l'enfer les âmes qui pourraient y tomber. Il s'agit de montrer au fond que les saints sont les principaux acteurs de l'histoire. Alors, il y a une dimension un peu agonale chez Maritain. Finalement, il y a toujours cette réflexion sur à la fois le marxisme très présent dans la société française et la société mondiale de son époque, donc toute une réflexion sur l'athée et le saint, qui est le plus efficace, qu'est-ce que la vraie révolution, est-ce que c'est d'être marxiste, est-ce que le saint n'est pas fait véritablement le vrai révolutionnaire qui permet de transformer la patte sociale. Et il y a un certain nombre de figures qui reviennent, saint Vincent de Paul, saint Thomas d'Aquin, et vous verrez les citations. Ce qui me paraît également intéressant, c'est toute la dimension de l'humanisme intégral, donc qui est un des grands textes de Maritain de 1934-1936, où il parle de la sanctification de la vie profane et de la vie séculière. Ça correspond à la citation, page 496, vers le haut. L'homme engagé dans l'ordre profane ou temporel d'activité peut et doit, comme l'homme engagé dans l'ordre sacré, tendre à la sainteté. Ces observations nous font mieux comprendre la signification de ce nouveau style de sainteté, de cette nouvelle étape dans la sanctification du profane dont nous parlions tout à l'heure. Ajoutons que ce style, affectant la spiritualité elle-même, devra sans doute comporter des caractères particuliers proprement spirituels, par exemple une insistance sur la simplicité, sur la valeur des voies ordinaires, sur ce trait spécifique de la perfection chrétienne, d'être la perfection non d'un athlétisme stoïcien de vertu, mais d'un amour entre deux personnes, la personne créée et la personne divine, enfin sur cette loi de descente de l'amour incréé dans les profondeurs de l'humain pour le transfigurer sans l'anéantir. Je passe un petit peu sur ces citations et j'en viens maintenant à mon quatrième point sur la réputation de la sainteté des Maritains. Sur un plan ecclésial, c'est très net. Il suffit de regarder des papes, Saint Jean-Paul II, Saint Paul VI. Saint Jean-Paul II se sert de Maritain dans Fides et Ratio, vous regarderez le paragraphe, pour rappeler la nécessité de parvenir à mieux penser le lien entre foi et raison. Vous regarderez également chez Saint Paul VI, depuis même pas une semaine, n'est-ce pas ? Canonisé tout récemment, et c'est une grande joie pour les milieux maritainiens. Les deux sont très proches en fait. Hein. Le Paul VI a traduit en italien dès les années 20 les volumes de Maritain, au moment où Paul VI était aumônier de la jeunesse étudiante italienne. Les deux hommes se connaissent, se sont rencontrés fréquemment. On a retrouvé récemment le brouillon de Paul VI. Hein, au moment où Maritain meurt, et on dit que Paul VI a pleuré au moment de la mort de Maritain, et Paul VI a de très belles formules en disant « Maritain est vraiment un maître dans l'art de penser, dans l'art de prier ». C'est les termes qui reviennent fréquemment. Donc Saint Jean-Paul II, Saint Paul VI, Pie XII et Pie XI ont également rencontré Maritain. Les éloges sont plus classiques dans la bouche de ces deux papes, mais on trouve des cardinaux, le cardinal de Toronto, le cardinal Paul Philippe, qui était un cardinal de Curie. Honnêtement, c'est une partie de mon travail depuis un certain nombre d'années maintenant, d'accumuler ces témoignages quant à la réputation de sainteté des Maritains. Je vous épargne un peu tous les détails, mais c'est vraiment quelque chose de très frappant tout au long de l'existence. Du moment, non pas de la conversion, mais disons quelques années plus tard, le premier témoignage que j'ai trouvé est une lettre de Psychary du mois d'octobre 1913. Psychary écrit à Maritain, donc son copain de lycée, hein, « Le bon Dieu t'aime beaucoup, bien-aimé frère, et il ne te ménage pas les épreuves, comme il a coutume de le faire pour ceux qu'il a vraiment choisis. Pour moi, je ne vois rien d'autre dans les tribulations qui te sont envoyées qu'une preuve nouvelle de l'élection dont vous êtes tous deux si manifestement marqués. Le point de départ de mon enquête, pour tout vous dire, c'est une lettre rédigée par une étudiante de l'Université de Chicago dans les années 1930, qui écrit à un collègue de Maritain, celui qui l'avait invité. Mais au fond, c'est qui ce mec? C'est un philosophe, c'est un professeur d'université, c'est un homme spirituel, c'est un saint. Et elle posait la question de manière tout à fait directe. Hein, et c'est partant de cette lettre que j'ai essayé de reconstruire tous les témoignages. Sainteté de l'intelligence, sainteté également dans les services rendus également à la communauté culturelle qui sont autour des Maritains. Il y a ainsi un très beau témoignage de François Mauriac qui date de 1933. Les blessés et les morts, on en voyait tomber autour d'eux et ils les ramassaient. Ils en ont guéri beaucoup et ressuscité quelques-uns. À propos de ces blessés et ces morts, il faudrait développer largement, mais autour du milieu de Maritain, vous avez un certain nombre de jeunes gens, séminaristes, bénédictins, futurs dominicains, les étudiants de l'Institut catholique de Paris, mais vous avez aussi un certain nombre de jeunes qui viennent de milieux très éloignés, en fait, de l'Église. Par exemple, tous les milieux qui gravitent autour du surréalisme, qui gravitent autour de Cocteau, on est là dans les années folles. C'est là sur un milieu qui, sur le plan moral, disons-le, est très marqué par la drogue, très marqué par l'homosexualité, très marqué par des faits qui ne sont pas tout à fait contemporains, n'est-ce pas? Et on voit bien que cette jeunesse-là se tourne vers les Maritains pour essayer de trouver un peu de lumière, avec parfois des réussites splendides et parfois aussi un certain nombre donc, de blessés et de morts que l'on voit tomber autour d'eux. Ils les ramassaient, ils en ont guéri beaucoup et ressuscité quelques-uns. Lui et Raïssa furent des contemplatifs. Mais en pleine bataille, ils possédaient Dieu, ils en débordaient. Mais c'était aux drogués de la littérature qu'ils donnaient leur vie. La poésie de ces années-là gardait tous ses prestiges pour ses âmes saintes. Je crois maintenant que Maurice Sachs, c'est justement un des filleuls de Raïssa, qui est retourné vers la drogue et qui mettait des chasubles taillées par Coco Chanel en satin noir et violet, n'est-ce pas? C'était très élégant. Et ça n'a pas duré très longtemps, évidemment. Je crois maintenant que Maurice Sachs est sauvé, que certains échecs de Meudon ne l'auront été qu'en apparence, et que Raïssa et Jacques se rejoindront devant le père avec tous leurs troupeaux, et il n'en manquera pas un seul. Pareillement, Julien Green l'écrit à Maritain, « Je vous connais assez pour savoir que vous ne tenez pas du tout à l'admiration. Laissez-moi vous dire tout au moins que j'admire Dieu en vous. Vous nous ouvrez enfin les grandes avenues de votre âme, et je n'y vois que la lumière. » Alors, on pourrait multiplier les exemples. Ce qui est très frappant, c'est les dernières années des Maritains. Lui est à Toulouse, donc chez les petits frères et avec les Dominicains tout autour. On a un très beau témoignage des derniers temps de Jacques Maritain sous la plume du frère Jean-Miguel Garrigue, donc un théologien de Toulouse. Et il écrit ainsi, dans son itinéraire d'un religieux en des temps incertains, les derniers temps de la vie de Jacques. Et je vous lis simplement un passage. « J'aimais aussi apercevoir souvent frère Jacques à la dérobée, aux heures d'exposition du Saint-Sacrement, recueilli en adoration au fond de la chapelle des petits frères, son visage maigre et très ridé, translucide comme une icône, auréolé d'une chevelure blanche et lumineuse comme la neige. Il était animé par des yeux d'un bleu myosotis, d'une incroyable intensité. Sa jeunesse d'esprit le faisait s'intéresser au renouveau charismatique qui germait alors à Rangueil sous ses yeux. » Donc Rangueil, c'est le lieu où il y a le couvent des Dominicains. « Et c'est pour nous interroger sur celui-ci qui nous reçut. Frère Albert-Marie, donc un collègue du père Garrigue, frère Albert-Marie et moi, dans le cabanon où il logeait avec deux autres frères. Il nous dit à cette occasion qu'il aimerait être jeune pour prendre une guitare et aller chanter Jésus dans les cafés. Celui qui le rencontrait ne pouvait pas ne pas être frappé par son écoute attentive, ainsi que par sa sagesse et son intériorité. En même temps, tout en lui exprimait une vraie humilité. Chaque jour, il passait plusieurs heures en adoration, en oraison silencieuse, etc. etc. » Quand on l'enterre, Il est enterré, il faut le dire, comme un saint, avec plusieurs cardinaux qui sont là, le pape Paul VI qui envoie un émissaire spécial pour le représenter. Et on va lire pendant son enterrement un certain nombre de textes de Léon Blois, du cardinal Journet, mais également de Maritain, et notamment sur... c'est un texte qui a pas mal circulé ces dernières années, parce que la maison Ad Solem en avait fait une petite édition sur les saints invisibles, les saints que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas reconnus, disons, par l'Église, mais qui sont un petit peu le peuple de Dieu en marche vers le royaume. Donc un ensemble de témoignages. Sur le plan de l'analyse, ce qui me paraît évidemment tout à fait important, c'est que ces témoignages sont parfois de simples évocations. On parle de la lumière, on parle du visage angélique des Maritains. Certains témoignages proviennent de gens qui sont de manière assez évidente un peu troublés. Si vous faites un jour de l'histoire religieuse, vous croiserez parfois un petit peu de gens qui, sur le plan psy, ne sont pas toujours très nets. Et Maritain, il faut le dire, il y a une quantité de femmes qui le poursuivent pour lui dire « Mon Jacques, combien je t'aime, etc. etc. Tu es la sainteté même, etc. » Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces témoignages? C'est pas très probant, évidemment, sur un plan canonique. Ce qui me paraît également devoir être souligné, c'est que la sainteté est évidemment très originale. C'est celle d'un couple marié qui est passé par le feu des désespoirs du monde moderne, qui est uni dans un amour fou pour Dieu, attaché de manière indéracinable à la vie d'oraison, à la vie sacramentelle, à la vie de la grâce, tout en étant plongé au cœur du monde par la situation intellectuelle et professionnelle, il enseigne couramment, par la diffusion des écrits, par le sens de l'hospitalité réelle et intellectuelle, et par un sens également de l'amitié, et c'est un point sur lequel Jacques revient souvent, ce qu'il appelle l'exister avec, comment parvenir à être le fellows les uns les autres et à faire cellule ecclésiale en quelque sorte. Dernier point, et je serai vraiment très, très rapide sur ce point, la question des baptêmes et de la qui entoure les Maritains. Je le disais précédemment, c'est plusieurs dizaines en fait de convertis et de conversions dans le sillage des Maritains. Je reprends une autre formule de François Mauriac. La fidélité des Maritains à leur vocation spirituelle a fait de leur modeste maison de Meudon l'un des centres de la vie spirituelle les plus féconds, peut-être de France et même d'Europe. Chez eux, la connaissance tourne à l'amour, l'ordre de l'esprit rejoint l'ordre de la charité. Voilà le secret de tout, car qui dit fidélité dit charité. Et on trouve un grand nombre de témoignages donc de l'écho de Jacques parmi les étudiants et parmi les lecteurs. Une lettre d'Étienne Gilson, qui est un autre philosophe de la même génération que Maritain, on trouve ainsi « Le merveilleux est que malgré tout, votre parole ait trouvé tant d'écho en tant de cœur et d'intelligence, gratuitement gagnée à ses vérités permanentes. Depuis qu'elles sont redevenues elles-mêmes en vous, elles ont recommencé de germer et de fleurir. Je suis le témoin idéal pour vous assurer que votre œuvre est grande, vraie, salutaire, féconde. » Et c'est vrai qu'on trouve dans la correspondance des Maritains quantité de témoignages de gens qui pleurent, en fait, à lire leur volume. Les grandes amitiés, sauf si vous êtes insensible, je dois avouer que la gorge nous prend l'émotion, notamment au moment où Raissa décrit le baptême de ses parents, et notamment donc quand c'est le père de Jacques qui est baptisé in articulo mortis par le médecin avec l'eau de Lourdes que le médecin ou je ne sais plus qui amène. C'est honnêtement, c'est bouleversant comme récit, et on sent finalement un monde qui est très éloigné de l'Église et peu à peu entrer pleinement dans les perspectives de la grâce. Des témoignages, donc sur les, je ne sais pas, vous rassurez-vous, inventoriez les 80 filleuls des Maritains. Ce qui est intéressant, il y a un paquet d'enfants, les enfants des amis déjà catholiques, donc c'est intéressant, mais jusqu'à un certain point, c'est un témoignage d'amitié, de une reconnaissance spirituelle d'une certaine manière. Mais vous avez aussi un certain nombre de personnes qui étaient eux-mêmes très éloignées de l'Église ou alors qui reviennent à une pratique religieuse. C'est le cas des Psychari, d'Éric Satie, de Julien Green, de Pierre Reverdy, de Jean-Mohamed Abdeljalil, qui est un étudiant qui vient du Maroc, proche de Massignon, converti et qui deviendra franciscain. C'est le cas de Jean Cocteau, et cette belle formule de Jean Cocteau: j'hésitais au bord du ciel comme un imbécile, et vous m'avez poussé dans le dos d'un coup de votre âme, poussé, la tête la première. Le Cocteau, il était baptisé, c'est un catholique de naissance qui perd à la fois la foi et la pratique, et qui revient finalement dans l'Église, de manière complexe, je ne développe pas, mais en tout cas en fréquentant le milieu maritain. Quand on regarde les premiers à entrer dans cette dynamique de la conversion par les convertis, ce sont les proches de Maritain, donc notamment la nièce de Maritain, puis la sœur de Maritain. Il y a un certain nombre de dates, donc c'est notamment 1907-1908, les premiers baptêmes. Les derniers se passent dans les années 1966, c'est des étudiants américains qui demandent à Jacques d'être le parrain de leurs enfants, avec, pour ceux que ça intéresse, il y a toute une dimension de l'œuvre de Jacques qui servira pour les militants, pour les civils, enfin pour la défense des droits civils aux États-Unis dans les années 50-60, et notamment autour d'un auteur qui s'appelle John Griffin, l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Dans la peau d'un noir », qui est un des premiers textes de journalisme incarné, quoi. Enfin, c'est un blanc qui se maquille et qui pendant 2 mois après donc une expérience d'immersion va décrire la réalité des Noirs dans le sud des États-Unis. Et lui, c'est un tout proche de Jacques. Le Maritain est cité dans le volume Dans la peau d'un noir. Et lui, ses enfants sont parrainés par Maritain. On repère des seuils dans ces conversions. Quelques étapes, 1926, la correspondance avec Cocteau, qui vient marquer tout un milieu. 1944, avec la publication des Grandes Amitiés, le Maritain va devenir un prénom pour un certain nombre de personnes, notamment aux États-Unis. Vous avez des protestants, notamment des Alsaciens, la famille Grunelius, ils passent tous ensemble dans l'église. Vous avez des juifs, je parlais tout à l'heure de Jean Marx et de Suzanne Marx, mais vous en avez quantité d'autres, et des étudiants du Canada. Vous avez également des collègues universitaires, vous avez des hommes de lettres, des étudiants, des mathématiciens, vous avez la secrétaire de Maritain qui demandera le baptême, vous avez, je pourrais vous lister, c'est un petit peu pour le coup à la Prévert, mais un ensemble d'individus qui entrent finalement dans l'Église à la suite des grandes amitiés. Conclusion de mon long topo, pardonnez-moi, ce qui frappe, c'est évidemment l'assise spirituelle qui est relativement large, au sens où c'est pas simplement saint Thomas. Alors ça, c'est peut-être un argument de spécialiste, mais souvent on dit le thomisme, c'est vraiment très étroit, c'est un peu rasant, c'est plus très utile pour penser la philosophie aujourd'hui, etc., etc. Mais quand on regarde la spiritualité des Maritains, on sort précisément d'une simple lecture thomiste de la vie spirituelle. C'est quelque chose de beaucoup plus large, avec, je le signalais précédemment, le Saint-Benoît, avec une spiritualité monastique, Sainte-Gertrude, Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Benoît-Joseph-Labre. C'est là quelque chose de tout à fait important pour les Maritains. Enfin, je pense que vous connaissez l'histoire de Saint-Benoît-Joseph, qui est un clochard qui meurt à Rome, dans les rues de Rome, sur les marches d'une église. Et quand Maritain est à Rome, il s'y rend un certain nombre de fois, il y habite pendant plusieurs années, constamment il se rend sur le sanctuaire de Saint-Benoît-Joseph-Labre, puisqu'il est très attaché à cette question de la sainte pauvreté. Le bienheureux Charles de Foucault, les saints du Carmel. Ce qui me frappe également, c'est la proximité avec le Saint-Siège. Le Maritain a rencontré tous les papes, de Benoît XV jusqu'à Paul VI. Très proche de Pie XI, notamment dans la crise de l'Action française, où Maritain apparaît comme le bon petit soldat romain, en un sens justifiant les vues du Saint-Siège dans la condamnation. Il est très proche de Pie XII dans le temps de son ambassade. Il est encore plus proche dans le temps du pontificat de Paul VI. Ce qui me frappe également dans la correspondance, c'est un élément que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est l'idée de communion des saints. Mais communion des saints vivants. Et on trouve, par exemple, il y a une très belle correspondance, un peu confuse quand même, mais intéressante, entre le bienheureux Vladimir Gicka, qui est présent à Paris au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc lui aussi un converti, mais de l'orthodoxie, et Maritain, et Monseigneur Gicka, donc martyr du communisme, béatifié en 2013, écrit en 1925 à Maritain. J'ai hâte de vous revoir et de m'appuyer un peu sur votre bonne amitié. Je le fais en attendant de loin, dans la communion des saints. Et je dois dire, je trouve ça assez génial, parce qu'évidemment, en 1925, il n'avait aucune raison de penser qu'il allait mourir martyr 40 ans plus, enfin, 25 ans plus tard. Mais il y avait finalement cet horizon, un objectif, en un sens, du milieu autour de Maritain, d'entrer dans la communion des saints, de demeurer à l'école des saints. Je lis mes dernières lignes et je m'arrêterai. Maritain, à travers tous ces écrits que j'ai parcourus, entendait à la fois, je pense, suggérer un chemin à ses contemporains et définir les exigences de son propre itinéraire, à la fois moderne et anti-moderne, ouvrant les voies du concile et critiquant certaines dérives post-conciliaires. Maritain pourrait être le saint de la continuité et du passage entre deux modèles de chrétienté. Il faudrait bien sûr prolonger davantage la réflexion à l'intérieur même de l'œuvre de Maritain, et il y a une thèse en fait qui est en cours sur cela, vers les ouvrages d'ecclésiologie et de théologie, et vers les textes également autobiographiques, puisque comme saint Augustin ou sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jacques, je le cite, le scaphandrier maladroit, avançant comme il pouvait au milieu de la faune sous-marine des vérités captives, Jacques, lui, le mendiant du ciel, déguisé en homme du siècle, lui, l'agent secret du roi des rois, c'est autant de formules qu'il emploie, l'agent secret du roi des rois, dans les territoires du prince de ce monde, a usé du genre autobiographique pour à la fois confesser sa foi et les grâces reçues, et tenter de définir ainsi, en métaphore poétique, le chemin de sainteté qu'il entendait parcourir. Merci. Pour les questions. Au contraire des colloques, on a toujours 3 minutes, n'est-ce pas ? Non, je plaisante. Hein. Je ne sais pas. On en a un peu de temps pour débattre ou...
Une ou deux questions.
Une ou deux questions, d'accord.
Vous savez un peu où en est le procès de canonisation ?
Alors, je sais très bien où est-ce qu'il en est, je peux vous dire. Il en est à peu près au degré zéro, parce qu'il y a périodiquement des rumeurs dans les journaux à Rome, y compris dans la Croix en 2011, sur le lancement d'un procès de canonisation. Le saint Jean-Paul II avait été consulté dans les années 80, c'est des propos rapportés, et il avait dit que ça devait se faire, mais que ce n'était pas le meilleur moment maintenant. Et d'une certaine manière, il n'y a rien qui a été fait depuis. Je dois moi-même rédiger un certain nombre de documents, puisque cela m'a été demandé il y a 2 mois, 3 mois maintenant, au mois de juin, et je n'ai pas encore exécuté cette demande. Voilà, mais de fait, vous avez raison, c'est bien le sens du travail, à la fois pour le cercle maritain, à la fois pour toutes les personnes qui sont attachées à la cause. Et c'est vrai qu'autour des Maritains, tout à l'heure je parlais de communion des saints, c'est stupéfiant de voir le père Caffarel, sa cause a été introduite, saint Paul VI il est déjà au ciel, le père Gicka il a été béatifié, le cardinal Journet, sa cause est bien avancée. Donc finalement il y a un ensemble d'éléments qui vient vraiment montrer qu'on est là au cœur d'une construction, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais d'une sainteté au XXe siècle.
Oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'expression « sainteté de l'intelligence » ? C'est simplement la stricte orthodoxie, la foi dans ce que professe l'Église, ou ça va plus loin ?
Je pense que ça va beaucoup plus loin. La sainteté de l'intelligence, c'est une formule qu'on voit très régulièrement non seulement sous la plume des Maritains, mais également quelqu'un comme Étienne Gilson l'emploie couramment. Et l'idée, c'est pas simplement d'analyser avec toute son intelligence l'orthodoxie ou les écrits du magistère, c'est de consacrer son intelligence à la vérité, avec un V majuscule, et donc de se donner tous les moyens pour être le plus fidèle, le plus scrupuleusement attentif, non seulement... alors évidemment, c'est un philosophe et un métaphysicien qui parle, donc on est là sur des notions très, très compliquées, très, très fines. Concrètement, c'est cette idée d'un don total, hein, non seulement de soi, mais de ce qui est le plus sensible en nous, c'est-à-dire l'intelligence. Le plus sensible, non pas au sens philosophique, mais le plus délicat, au sens quasi musical chez les Maritains.
Oui. Sur sa conversion vraiment initiale, vous avez parlé à la fois de Léon Blois et de Bergson. Qu'est-ce qui a été premier? Parce que j'ai lu il y a très longtemps les Grandes Amitiés, il me semblait que c'était Bergson qui découvrait les cours au Collège de France.
Ah ouais, vous avez raison, je suis passé rapidement sur ce point.
Et après, avec Léon Blois, il y avait encore une étape. Donc, qu'est-ce qui a été vraiment auteur?
Le malheur, c'est que les cours de Bergson sont profondément novateurs pour les Maritains, mais comme pour toute une génération. D'une certaine manière, je vous rappelle, au cours de Bergson, ils étaient des centaines à se rendre au Collège de France pour entendre le maître, et qui venaient briser en quelque sorte le cadre scientiste de la philosophie de la Sorbonne de cette époque. On espérait, je rappelle, écrire l'histoire du monde en équation, c'est pas tout à fait la formule de Berthelot, mais enfin, vous la connaissez mieux que moi. Le Bergson vient briser cela, mais ne propose rien, finalement, sur un plan strictement religieux, spirituel. Et les Maritains, effectivement, sortant du cours de Bergson, se retrouvent un petit peu comme dans un désert, sur un plan philosophique. On a cassé la baraque d'en face de la Sorbonne, mais que construit-on positivement? Et c'est là effectivement un moment de flottement sur le plan de l'intelligence chez les Maritains et sur le plan, disons, de la vocation conjugale. Et ils rencontrent le roman de Léon Blois, ils vont ensuite rencontrer Léon Blois en personne. Et avec cette idée, c'est assez énigmatique. Il y a des très belles descriptions dans Les Grandes Amitiés sur Léon Blois habité à Montmartre. Et donc, ces jeunes de 20 ans qui gravissent les escaliers de Montmartre, qui ne savent pas sur qui ils vont tomber, qui est Léon Blois, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une espèce de Jonas de la modernité. Il passe son temps à gueuler sur les bourgeois, sur les cochons de Cochon-sur-Marne. Enfin, on est là dans une spiritualité qui est celle d'un combat et de dénonciation du monde bourgeois, dénonciation des faux fuyants, dénonciation des faux semblants. Avec, il y a une formule que Jacques emploie à plusieurs reprises. Après avoir rencontré Léon Blois, il dit si c'est dans un tas de fumier, il parle de l'Église catholique à propos de ce tas de fumier. Si c'est sur ce tas de fumier qu'il faut aller chercher la vérité, nous irons. Voilà. Donc on est là dans la veine très très bonne. Donc pour répondre à votre question, premièrement Bergson, deuxièmement Léon Blois.
Voilà. Merci beaucoup.